Voilà, je salue toutes et tous, et en particulier les mamans, pour qui aujourd'hui c'est une journée spéciale qui est inscrite dans le calendrier, et on en a entendu comment, de quelle manière. Mais je pense sincèrement, au fond de mon cœur, que cette fête ne devait pas être inscrite seulement un jour. Et si même elle n'a pas ses origines chrétiennes, je pense avec sincérité de cœur qu'elle pourrait l'être. En m'appuyant sur le premier commandement, qui s'adresse non pas en référence à Dieu, mais en référence au prochain, dans le décalogue, je lis ceci. Honore ton père et ta mère. C'est tous les jours. Avec cette promesse de Dieu, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Quel que soit notre âge, cela doit être une occasion privilégiée chaque jour pour nous souvenir, comme moi, avec grâce, avec bénédiction, et pour ceux qui ont le privilège d'avoir encore leur maman, d'honorer leur maman. C'est selon le cœur de Dieu. Je pense bien sûr à chaque future maman. Et j'associe aujourd'hui les mères spirituelles de l'Église. Là aussi, le Seigneur mais une touche particulière pour vous. Qui sont mes frères? Qui est ma mère, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur, et ma mère. Ainsi donc, cette fête s'adresse à chacune d'entre vous. Ce matin, ce n'est pas une prédication. Ne vous attendez pas à entendre une prédication de la parole de Dieu telle qu'on a l'habitude de l'entendre. Ce sera plus quelques pensées, quelques exhortations, avec le désir profond que le Seigneur a placé sur mon cœur, que ces paroles soient sujets de consolation, d'encouragement, de relèvement pour chacune d'entre vous et aussi chacun d'entre nous. Et d'emblée, je voudrais lire avec vous un texte deux textes. C'est le premier se trouve dans le livre des Juges, chapitre 13. Manoah, le papa de Samson, dit cette parole et fait cette prière. Juges chapitre 13, verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'ange ou que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu Dieu exauça la prière de Manoah. Et un peu plus loin, je pense que c'est au verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Un autre texte qui se rattache dans ma préparation à ce texte où nous voulons rester dépendants de notre Seigneur pour savoir comment faire, comment agir avec ce cadeau de vie que Dieu nous fait. L'épître de Jacques nous donne une solution. Jacques chapitre 1er, un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Et voici ce qu'il dit au verset 2. Mes frères et slango-presseurs, hein? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il en faut beaucoup pour une dame, pour une sœur, pour une mère. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaite et accomplie sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous, mes sœurs, mes frères, manque de sagesse pour élever les enfants, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et nous savons que Dieu donne sans être partial à l'égard de ceux qui s'approchent de lui, qui demandent des conseils et qui réclament sa sagesse. Alors soyons reconnaissants envers nos mamans, et a fortiori, moi, envers mon épouse, nos épouses, qui ont porté, comme il a été dit, pendant 9 mois, un cadeau d'amour, pas toujours en bonne santé. Et pour certaines, cette période a été très, très difficile. Qui, après l'enfantement, a veillé plus que nous les pères, parce que quand on dort, enfin quand je dors, je dors. Le gosse à côté peut crier tant qu'il veut, j'ai l'impression d'avoir des gouttières. Mais maman est toujours sur les starting blocks, hein, prêt à intervenir. Une disponibilité sans faille, attentive aux moindres besoins. Tu ne sens pas? Il a un peu de fièvre, un nom, si, inquiète. J'aurais voulu avec mon épouse faire lire un sketch, enfin, un sketch que j'aurais compris. J'aurais une histoire, un chant qui date de 45 ans. Donc, ne vous étonnez pas, la voix que vous allez entendre n'est pas d'aujourd'hui, elle est de 1974. Alors, pour les jeunes, connaissent-ils encore Marie Laforêt? J'ai donc décidé de vous faire subir cette voix. Ça dure 3 minutes 45. Pour ceux qui le veulent, peu temps. À la fin, je vous éveillerai. Mais son message est tellement beau que cela va certainement émouvoir nos cœurs.
Hier soir dans la cuisine, je préparais le dîner. Quand mon petit garçon est entré, il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Je l'ai lu. Et voici ce qu'il disait.
Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, 1 franc 25. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1 franc et 10 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9 francs et 85 centimes.
Je l'ai regardé. Il s'est tortillé en mâchant son crayon. Et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai pris son crayon, j'ai retourné la feuille, et voilà ce que j'ai écrit.
Pour 9 mois de patience, 12 heures de souffrance, cadeau. Pour tant de nuits de veille, surveillant ton sommeil, cadeau. Pour les tours de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tout, le total de mon amour, c'est cadeau.
Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin dans les yeux. Il a levé la tête et a dit:
Non, je t'aime très beaucoup.
Il a repris son papier, l'a retourné. Et en grosses, grosses lettres, a marqué cadeau.
Et quand on fait le tout, le total de l'amour,
c'est cadeau.
Et les encouragements dont j'avais besoin. Elle m'embrassait avec tendresse, comme l'unique et le merveilleux cadeau que Dieu lui avait fait. Elle m'enseignait, elle m'éduquait, et elle m'offrait un environnement de soutien à la fois verbal qui était constant. Il y a un lieu où j'avais droit à l'erreur, sans que ces remarques ne soient blessantes et écrasantes, mais elles savaient corriger avec amour, humilité et aussi fermeté. Elle souffrait des faux pas de son enfant, mais son amour était inconditionnel. Beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Sa discipline n'avait d'autre but que de me montrer ce ce que signifiait être disciple de Jésus-Christ. Jamais, jamais, elle ne m'a étouffé. Elle savait me montrer, à la fois dans ses paroles, mais surtout dans son attitude, que ce que signifie la Seigneurie de Christ, et que tout devait être fait pour la gloire de Dieu. Ensemble, avec elle, avec papa, j'ai su ce que signifiait la puissance de la prière. Ce que c'est que d'écouter Dieu au travers de sa parole. Et maman, un modèle à suivre. Pas parfaite, je ne dis pas cela. Comme les hommes, les maris, les papas ne sont pas parfaits. Comme les enfants ne sont pas parfaits. Il y a donc un chemin de perfectionnement et de sanctification à suivre. Une maman, c'est elle qui accepte le rôle immense que Dieu a inscrit dans ses gènes, dans son ADN, et qui comprend ce que Dieu attend d'elle. Ce rôle n'est pas toujours heureux, n'est pas tous les jours facile. Elle vit malgré les sacrifices, malgré que sa vie est un véritable cadeau, je reconnais qu'elle a vécu de ma part beaucoup d'ingratitude, beaucoup d'exigences. Que d'enfants font pleurer, j'en fais partie, leur maman. Elles ont eu beaucoup de souffrances, malgré leur vie pleine de sacrifices. C'est par elle que nous venons au monde. C'est par elle que nous avons le contact premier avec Dieu. Même lorsque nous sommes des nourrissons, je me rappelle que mon épouse, avec son enfant, alors qu'elle lui donnait le sein, joignait les mains de nos enfants pour dire merci. Elle rendait grâce à Dieu parce qu'elle ne comprenait pas comment du pain, de la viande, des légumes deviennent du lait. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et elle bénissait ce Dieu merveilleux qui fait que, voilà, à un moment donné, le lait apparaît pour nourrir l'enfant. C'est là que ça commence. Et comme pour Manoa, mon père, désolé de parler d'eux, mais je pense que c'est l'expérience de plusieurs parmi nous. Mon père m'a toujours dit, lorsque nous désirions avoir un enfant, notre demande telle Manoa, Seigneur, ne nous donne pas un enfant qui ne soit pas ton serviteur. Et telle est la prière que Manoa pouvait exprimer à Dieu, et tel est le désir que je place sur vos cœurs, vous, mère et père, que vos enfants soient des serviteurs de Dieu. Malheureusement, ce que Dieu a inscrit dans le cœur de la femme, de la mère, est aujourd'hui entaché par le péché. De sorte que l'on assiste à des situations perverses, cruelles, diaboliques, où le congélateur devient un endroit infâme. Et dans ces situations, mon Dieu, qui est mon Père, Dieu est un Père, mais avec un cœur de mère, dit à tous ceux qui vivent des situations difficiles, Ésaïe chapitre 49, Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Cesserait-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a élevé? Quand même elle l'oublierait. Et aujourd'hui, le même paraît un peu tronqué aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Quand même elle oublierait, dit l'Éternel, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alors, ce matin, je voudrais, au travers de quelques pensées, bénir notre Dieu pour les mamans qui relèvent le défi vis-à-vis de leurs enfants. Et leur dire merci. Leur dire bonne fête. Glückti Gewürjahr am Mutter. On est en flamand. Ah, bona festa, mamma. On est en italien. J'ai bien dit, hein? Ah bah. Happy birthday to mother. Oui, hein? Alors, je me lance. Hein. Festiego nai lecciego dia mamouchof im papchof. Bien? Oui. Voilà. Il n'y a pas d'espagnol, non? Ah oui. Et voilà, ma grand-mère me disait, avec le français qu'elle connaissait alors, un patois picard, va dire bonne fête à maman. Je pense que vous avez compris ce qu'on dit, moi aussi, hein. Et pourtant, cette fête, bien-aimée, elle a deux facettes. Elle est un sujet de jouissance pour nous ce matin, en bénissant le Seigneur pour tout ce qu'elle nous a communiqué, mais aussi nous bénissons le Seigneur pour ces moments spirituels qui sont des guides, qui nous conduisent à Jésus-Christ. Et l'autre facette, je pense que c'est bon de le souligner, c'est à l'égard de ces femmes pour qui la journée est triste. Ces dames qui vivent des souffrances à la fois physiques, sont malades, mais aussi celles qui souffrent moralement, ils n'ont pas eu la joie d'engendrer la vie et qui ont reçu de la part de Dieu un autre projet en accueillant des enfants abandonnés, orphelins, des enfants qui ont été agressés de diverses manières et qui sont entourés par nous. Je pense aussi à ces mamans qui souffrent et ces pères parce que l'enfant a pris un chemin large. Et c'est le cœur de tout parent, tel que quelqu'un l'a exprimé ce matin, que nos enfants puissent revenir à Jésus-Christ. Alors, je prie, j'ai marqué ici quelques sujet de prière pour chacune de vous. Je prie pour qu'au-delà de cette journée, au-delà de votre souffrance, vous continuez à cultiver les qualités que produit le Saint-Esprit pour continuer à être des mères selon le cœur de Dieu. pour que vous soyez toujours source de bénédiction en étant vous-même béni par Dieu. Que vous soyez toujours consolé, que vous soyez restauré dans vos âmes, relevé, afin que par votre voix et vos gestes, vous puissiez encore consoler, relever ceux de vos enfants qui sont abattus. Mon désir devant le Père, c'est que chaque famille soit un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu de grâce, un lieu où la fidélité de Dieu et à sa parole est vécue, où Jésus-Christ est au centre. Et quelles que soient les tempêtes que le foyer peut vivre, que chaque mère reste ferme dans la foi. Qu'elles soient soutenues aussi par leur mari, lorsqu'elles sont épuisées à la fin d'une journée, et qu'il y ait dans ce foyer un partage des responsabilités. Que notre Dieu donne sa sagesse à chacune et à chacun de nous dans les choix de vie en ce qui concerne nos enfants. Que notre Père Céleste prenne soin de chaque maman selon ses promesses. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je suis tous les jours avec toi. Que notre Dieu réponde à vos désirs, comme il l'a fait pour Manoah, à vos désirs les plus profonds. Il est vrai que les enfants quittent ou quitteront la maison. Ne vous sentez plus responsable de leur choix. Restez en toute circonstances des canaux de bénédiction. Alors vous, chère maman, qui souffrez, recevez de la part de Dieu sa paix qui surpasse toute intelligence. Recevez le repos de Jésus-Christ, dont Jacques a déjà fait mention. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatiguées et chargées, et moi, je vous donnerai le repos. Que notre Père Céleste relève vos cœurs pour avancer debout dans la vie. Je voudrais aussi m'adresser, avant de prolonger, m'adresser aux jeunes. Il se peut, cher jeune, que ta vie ne t'a pas épargné, que tu as été écrasé, blessé, maltraité, bafoué, et qu'à cause de cela, tu te fais l'image d'un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Dieu est ton père. Il désire l'être. Il n'est pas une mère. Mais c'est un père qui désire se révéler à toi avec un cœur de mère, tendre, plein de compassion, de miséricorde. Et notre Dieu, ton père, lit au plus profond de ton cœur. Une femme oublie-t-elle? Moi, je ne t'oublie pas. Psaume 27. Tu as été mon secours, dit David. Tu ne me délaisses pas. Tu ne m'abandonnes pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère, pouvait-il dire, m'abandonnent. Mais toi, Éternel, tu restes le même. Tu me recueilles. Et je termine cette prière en puisant dans un psaume de David, psaume 34, verset 4. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Vous les mamans, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux la mère, l'homme, la femme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous les jeunes, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vraiment que cette parole et ce que nous avons dit puissent venir s'incruster au nom de Dieu dans votre âme pour que vous puissiez poursuivre la route. Allez, on va passer un petit jeu. On va voir ceux qui sont forts. Hein. Je voudrais vous citer des noms d'enfants ou des noms de femmes. Et on, voilà, j'en ai pris quelques-uns. Il y en a plus développé, hein, je vous assure que... Voilà. À votre avis, si je vous dis le nom de Sarah... Isaac. Le fils de Sarah, Isaac. Ève... Ah, d'accord. Ah, Agar. Ismaël. Bien. Rebecca. Rebecca. Ésaü et Jacob. On parle de Rebecca en relation avec l'Église, mais Rebecca a eu quand même un enfant qu'elle a chouchouté et qui a engendré pas mal de souffrances. Donc, attention de ne pas tomber dans ce travers, mes sœurs et les maris. Allez, Jochébed. Oui, et ensuite, Moïse. Bravo, oh là là. Ruth. Ruth. Obed, qui a donné naissance à... Oui, Jésus, oui, en finalité, mais après. Oui, et David, oui, Samson l'a dit. J'avais noté la femme de la Tsunamite avec le prophète Élisée, mais je ne connais pas son nom. La maman de Jean-Baptiste, Élisabeth. La maman de Jésus, Marie. Ah, Hérodias.
Salomé.
Et qu'est-ce qu'elle a fait d'abord?
Elle a dansé devant le
roi. Oui, hein. Elle a réclamé à sa fille de lui donner la tête de Jean-Baptiste. Et puis l'exemple, voilà, c'est Timothée, quoi. Sa maman, c'est Eunice et Loïs. Sa grand-mère, voilà, et Paul veut dire, tu gardes le souvenir de la foi sincère, voilà, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice. Si nous avions pris le temps de regarder dans le livre des rois et des chroniques, j'ai retrouvé, pour ceux qui ont la Bible sur l'ordinateur, c'est facile à trouver, il suffit de frapper la phrase suivante, le nom de sa mère. Nous allons en trouver plus ou moins 25. Exemple, 2 Chroniques 22, il est dit d'Acacia que sa mère était sa conseillère. Super! À mal faire. Comme c'est terrible de donner de mauvais conseils. Et c'est ainsi que, si on relit ces 25 fois où ces deux livres parlent de sa mère était, l'évaluation que Dieu fait de l'influence de la mère sur le fils, il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, mes sœurs et mes frères, toute l'influence que nous avons sur nos enfants. Maintenant, ne nous culpabilisons pas, ils ont leur propre, réflexion, ils font leur propre choix, et nous devons garder les portes ouvertes quand ils décident autre chose que ce que vous pouvez donner comme conseil, et ce que la parole de Dieu donne. Je voudrais vous raconter une histoire, et comme le temps avance, je vais vous raconter le contexte de deux mamans, et nous tirerons quelques exhortations, et j'espère plein de consolation pour chacune d'entre nous. Il s'agit, je ne donne pas la référence parce que tout de suite, tu dois le savoir. Hein. Allez, ceux qui connaissent déjà, ils peuvent dire la référence. C'est un épisode dramatique qui se trouve au début d'un règne de roi. Oh, ça y est, il n'y a plus rien à dire. On a déjà découvert le règne de Salomon. Voilà. Et je me suis dit, c'est quand même une histoire bizarre à raconter pour une fête des mères. Et pourtant, c'est cette histoire qui me trotte dans la tête depuis que Jacques m'a demandé de prêcher. Deux femmes dont la vie n'est pas modèle à suivre. Une vie moralement déchue. On dirait aujourd'hui qu'elles font les trottoirs, pour être modeste. Et de plus, leur vie sociale est lamentable. À elles deux, elles ont décidé de vivre en colocation. Et pour ceux qui les croisaient, à l'époque de Salomon, il n'y avait aucune différence. En apparence, c'était pareil, sans doute attirant, vu ce qu'elles exerçaient dans la rue, et elles étaient enceintes toutes les deux, avec le même nombre de mois. À 3 jours d'intervalle, elles accouchent. Toutes deux ont un enfant de père inconnu. Triste famille qui est en train de s'avancer. Et durant une nuit, le drame est présent. Une des deux mères s'endort sur son enfant et l'étouffe. J'ai essayé d'imaginer la cause de ce sommeil profond, de son insouciance. Qu'avait-elle fait qu'avait-elle absorbé pour tomber dans un sommeil si profond au point d'étouffer son enfant? Je ne sais pas. Toujours est-il, ce que je découvre dans la parole de Dieu que nous allons lire, c'est une situation qui est des plus macabres. Elle a étouffé son fils. Et loin de moi de minimiser cette erreur, ce drame, l'enfant est mort. Dans des circonstances pénibles, douloureuses. Et voilà qu'à ce drame s'ajoute un autre drame. Pour des raisons qui m'échappent, ou que nous allons essayer d'imaginer, et pour des raisons que je ne cautionne pas. Voilà qu'elle veut l'enfant de sa locataire, l'enfant qui est vivant. Pourquoi aurait-elle des choses à cacher de son sommeil profond? Voudrait-elle éviter de perdre la face? Veut-elle éviter de s'expliquer sur ce méfait? Toujours est-il que cette femme qui vient d'écraser, qui vient d'étouffer son gosse, décide d'échanger son enfant mort avec celui de sa colocatrice qui est vivant. Le matin, au réveil, quelle atmosphère dans cette maison! Tension électrique! Tension, atmosphère tendue, des cris, de la haine, des pleurs, des disputes, des accusations, des mensonges, de la violence. Et c'est ainsi que les deux femmes, laquelle, je ne sais pas, prennent la décision d'aller en parler au roi Salomon. Et là, dans la salle du palais, le roi Salomon assiste au crépage de Chignon. Ton fils, c'est le mort. Mais non, mon fils est vivant. Elle s'arrache l'enfant qui est vivant. Il est pris en otage. Et Salomon pige bien à cette situation. Heureusement, quelques versets qui précèdent cette histoire que nous allons lire mentionnent que Dieu a dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux. » Et Salomon aurait pu demander la richesse, le confort, la gloire. Il aurait pu demander la terre. Salomon dit, « Donne-moi un cœur sage. » Et nous allons lire maintenant le texte où nous allons voir la sagesse que Salomon a reçue de la part de Dieu. Et nous lisons cela dans 1 Roi, chapitre 3, et au verset 23. Dans la lecture, je vais essayer de m'arrêter pour souligner quelques pensées pour ne pas allonger. 1 Roi chapitre 3, verset 23. Le roi dit, Salomon, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Et Salomon ajouta, « Apportez-moi une épée. » Et on apporta une épée devant le roi. Je souligne une pensée, je ne la dévoque pas, bien que c'était mes intentions, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, utilisée à bon escient, avec la sagesse d'en haut. Pas pour tuer, mais pour relever. Dieu nous invite à favoriser la vie plutôt que la mort. La lettre tue, l'esprit vivifie. Il y avait beaucoup à dire, mais je continue. Le verset 24, où Salomon dit « Apportez-moi une épée », on lui apporta une épée. Verset 25, et le roi dit « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'autre, à l'une, et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit au plus profond d'elle-même ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. » Mais l'autre femme dit, « Il ne sera ni à toi ni à moi. Tu dois le couper en deux. » Et le roi, avec la sagesse de Dieu, prit la parole et dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. » Voilà maintenant que dans cette situation difficile, Dieu révèle le cœur de la mère. Un cœur qui sait se sacrifier pour son enfant, pour qu'il vive. Et je sais parce que l'on rappelle à nos souvenirs ce qui s'est passé en 1940-45. Il y a des mères qui se sont sacrifiées par amour pour leur enfant, pour que leur enfant vive. Alors qu'elle emprunte le chemin de la mort. Pour une de ces femmes, de ces mères, il s'agissait pour elle de sauver la face, de révéler un cœur qui n'était pas le cœur selon Dieu, un cœur qui étouffe, un cœur qui écrase. Et elle voulait simplement assumer son avenir, avoir cette garantie sociale pour l'époque. L'autre femme, celle que Dieu, au travers de Salomon, dit, ça, c'est la vraie mère. Son amour est tellement fort qu'elle préfère se sacrifier pour que son enfant vive. Elle renonce à son instinct maternel sans l'écraser pour qu'il vive. Bien-aimés, nous avons tous besoin de réclamer cette sagesse divine et aussi un tel discernement. C'est utile, voire indispensable dans notre vie de parents. Je me suis posé la question, mais en quoi moi, Père, nous, mon épouse et moi, aurions-nous pu étouffer, écraser un enfant? Par trop d'amour, un amour qui est doux, qui ne laisse pas l'enfant le soin de respirer, par faire des préférences, des chouchous, aimer. Ce n'est pas posséder ou anéantir ni assigner à une place qui l'empêche de s'épanouir. Aimer, c'est conseiller, c'est se tenir aux côtés, c'est être capable de se priver pour que l'enfant vive. Aimer, c'est se donner, c'est souffrir comme le Fils connu et être prêt à pardonner. Cher Marie, cher papa, parce que l'un ne va pas sans l'autre non plus, restons suffisamment humbles pour réclamer avec nos épouses la sagesse d'en haut avant de trancher et le choisissent. Sachons utiliser à bon escient la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Sachons montrer à nos enfants, chère Marie, cher papa, le chemin de la repentance. Sachons nous laisser façonner comme Salomon dans l'intimité de son Dieu par la parole de Dieu, dans la prière, guidé par l'autorité du Saint-Esprit, afin de semer dans le cœur de nos enfants le fruit de l'Esprit. Celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit. Celui qui sème pour la chair récoltera de la chair. Lui, il y a eu dans ma vie, dans nos vies, des faux pas. Que ce soit dans les mères, dans les pères, nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Mais nous ne nous laissons pas paralyser par cela. Le passé est passé. On ne peut y revenir. On ne peut pas le changer. Et alors la question, c'est comment vivre aujourd'hui pour un meilleur avenir, quelle que soit la situation. Alors, j'ai pensé à trois situations. Soit qu'on reste buté, moi j'ai raison, toi t'as tort. Est-ce que cela va amener un chemin de réconciliation? À vous de répondre. L'autre situation, il y a eu cette confession, il y a eu cette réconciliation, et les parents restent culpabilisés de leur passé. C'est pas ce que le Seigneur veut. Et je vous dis qu'aujourd'hui, recevez le pardon de Dieu. Et la troisième solution, c'est si malgré tout, la relation restait tendue, froide, difficile, avec un certain désaccord permanent, il est sage de garder la porte ouverte, de demander à Dieu de façonner nos cœurs pour accueillir nos enfants dans le chemin de la repentance, dans l'écoute. Soyons toujours dans cette situation macabre des sources de bénédiction pour ceux que Dieu nous a donnés. On ne minimise pas le passé, mais on permet à Dieu d'agir. On ne se substitue pas au Saint-Esprit. Nous ne sommes que des canaux que Dieu veut utiliser. J'aurais voulu parler du vol de la maman. Chers parents, n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui désire voler. Le diable, mon Dieu, vole des relations qui devraient rester vivantes. Des relations qui sont paisibles, il les détruit parce qu'il n'est pas celui qui construit. Bien-aimés, restons des combattants dans la foi, dans la prière. Et chaque jour, revêtons-nous des armes spirituelles. Par amour, prêt au renoncement, pour suivre Jésus-Christ et être des modèles de Christ. On dit bien à quelqu'un qui nous manque la route, voilà, il est en voiture, nous le sommes aussi, et quelqu'un qui est en voiture nous dit, « Ah, monsieur, pour aller à tel endroit. » On lui explique, mais voilà, on a déjà été dans cette situation, mais malgré les plus belles explications, on comprend rien. Quelle joie d'entendre la personne qui est interrogée nous dire « Ah, suivez-moi !» Je vous encourage à dire à nos enfants « Suis papa, suis maman. » Avant de chanter, une dernière prière d'un homme de Dieu qui vivait une situation difficile et elle se trouve dans Deux Chroniques, chapitre 20, verset 12. Ô notre Dieu, quand exerceras-tu tes jugements justes sur mes ennemis? Quand est-ce que tu vas arrêter cette violence qui se trouve dans ce monde et qui arrache ceux qui nous a donné dans sa vie? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et Josaphat de dire, car nous sommes sans force contre ce fléau qui s'abat sur nous. Et je ne sais plus que faire, dit Josaphat. Soyons humbles pour reconnaître nos faiblesses et nos limites, comme Josaphat. Mais, dit Josaphat, nos yeux sont fixés sur toi. Chère sœur, chère maman, que le Seigneur vous bénisse. Que la consolation d'en haut vous soit donnée, que des forces nouvelles vous soient données pour continuer le rôle que le Seigneur vous a donné. Et nous, Papa, soutenons nos épouses dans cette tâche qui est des plus difficiles. On va chanter une prière et on écoute en cela la voix de notre Dieu. Jésus te. Chère sœur, chère maman, cher papa, cher papy, mamie, chère sœur, mère spirituelle, Jésus te confie une œuvre d'amour. On va chanter.